France Inter, le 18-20.
Il trouve ça drôle, votre collègue à la machine à café tous les jours qui vous inflige les mêmes remarques sur la longueur de votre jupe. Il se trouve hilarant, le chef de service qui vous passe la main dans le dos quand c'est pas plus bas à chaque fois que vous le croisez. À qui faudra-t-il que vous finissiez par les montrer, ces avalanches de SMS explicites que vous recevez d'un de vos supérieurs? Combien de fois faudra-t-il encore que vous disiez non aux invitations lourdes et répétées du patron? À quel moment faudra-t-il vous protéger parce que vous ne pouvez plus travailler sereinement? Le harcèlement sexuel au travail, il concerne 3 millions de femmes, une sur 5, une sur 3 seulement signalera son harceleur, et l'affaire Weinstein aux États-Unis en ce moment même est là pour nous rappeler que l'argent, le pouvoir, la crainte de parler, la crainte de perdre son travail ou de ne pas en avoir, tout cela fait que rien n'est simple, et c'est pour ça qu'on en parle ce soir au téléphone sonne. Un téléphone sonne en partenariat avec France 2 ce soir, une soirée qui commence par le téléfilm Harcelé qui se poursuit en deuxième partie de soirée avec un documentaire Harcèlement sexuel au travail, une affaire de tous, et puis un débat, le tout présenté par Marie Drucker. Vous verrez aussi passer l'ami Guillaume Meurice ce soir qui participe à cette soirée. Pour celles qui sont harcelées, pour celles qui, ceux sans doute, qui ne savent pas faire la différence entre une drague lourdingue et le harcèlement, pour toutes celles qui n'ont pas les clés pour que ça cesse, la soirée est faite pour vous.
Fabienne Saint-Ès. Le téléphone sonne.
Et Anis, c'est vous qu'on accueille en premier sur l'antenne de France Inter. Soyez la bienvenue, on vous écoute Anis.
Oui, bonjour, bonsoir et merci France Inter de prendre mon appel. Voilà, en 2016, j'ai été victime d'une agression à caractère sexuel au ministère des Armées, dans mon bureau, de la part de mon supérieur hiérarchique. Donc c'était un matin, il m'a collé contre lui, il m'a plaqué, il m'a ceinturé et il m'a fait une prise de combat. Donc j'étais sous le choc, je suis allée voir mon sous-directeur qui m'a dit « Mais madame, rentrez chez vous ». Et pendant un mois, j'étais toute seule avec ma détresse et ma souffrance. Entre-temps, j'avais porté plainte, j'ai été entendue par les gendarmes, donc aussi une ambiance pas très sympathique. Et maintenant, mon dossier a été pris en compte par le ministère de la Justice et le procès aura lieu avant la fin de l'année pour violence volontaire sur subordonnée avec 30 jours d'ITT. Car j'étais extrêmement choquée et malade. Quand je suis rentrée chez moi, j'étais dans une grande détresse et une grande souffrance.
Et Anis, on la sent encore, votre souffrance en vous écoutant. Et c'est pour ça qu'on vous remercie d'ailleurs beaucoup pour ce témoignage, parce que c'est courageux. Une petite question, si vous le voulez bien. Est-ce que vous avez pu retourner au travail désormais? Et j'ai envie de dire où, en fait. Est-ce que vous avez zéro chance de le croiser, ce monsieur, à minima?
Non. Alors le problème, bon, j'ai changé de service, mais il m'arrive de croiser ce monsieur, qui lui n'a pas été du tout inquiété. Il n'a même pas été mis à pied 8 jours, rien du tout. Et il se comporte par moments avec moi, il a un comportement délétère. Et j'ai dû en référer au médecin du travail, il n'y a pas très longtemps, pour lui relater ce qui se passait à mon égard. Et pour que le médecin du travail avertisse la haute hiérarchie, pour que ce monsieur cesse de m'importuner.
Merci vraiment pour votre témoignage, Anis. Ce qu'on entend, c'est votre émotion, bien sûr, mais ce qu'on entend aussi, c'est que vous n'avez pas lâché prise. Puisque vous êtes retournée au travail et que ça continue à certains égards, mais que vous allez voir les responsables du personnel, il n'est pas question de vous laisser dépasser par cette histoire. C'est aussi ce qu'on entend dans votre témoignage, Anis.
J'ai été après aidée par les associations, du ministère de la Justice et des associations d'aide aux victimes de violences, par une psychologue qui m'a aidée. Mais par le ministère, pas grand-chose, où il fallait vraiment que je fasse des démarches moi-même. Et personne ne voulait me donner de numéro de téléphone ou de personne à qui contacter.
Merci encore, Anis, voilà. Et j'espère que votre témoignage pourra être utile à celles et ceux qui nous écoutent, évidemment, en ce moment. Puis il y a beaucoup de choses qu'on a entendues et qu'on a envie un peu de développer avec les invités qui sont ce soir autour de cette table. Marine Baldeck, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes déléguée générale de l'AVFF, l'Association européenne contre les violences faites aux femmes au travail. Et Leïla Hamzaoui, bonsoir. Bonsoir, vous êtes avocate spécialisée en droit du travail. Il y a beaucoup de choses, Marlène Baldeck, dans ce qu'on a entendu dans le témoignage d'Anis. D'abord, effectivement, il y a le fait qu'elle y va, elle porte plainte, elle se laisse pas faire, mais qu'elle se sent terriblement seule dans ces démarches-là.
Elle a raison de se sentir seule et de se sentir abandonnée par son employeur, parce que moi, ce que j'entends, c'est qu'il y avait suffisamment d'éléments pour que le procureur ordonne un renvoi devant un tribunal correctionnel, pour qu'il y ait un procès. Et donc, à minima, il devrait y avoir suffisamment d'éléments dans ce dossier pour que des sanctions disciplinaires soient prononcées à l'encontre de cet agent du ministère de la Défense. Et donc, je comprends parfaitement son sentiment de trahison. Et je pense qu'elle devra ressaisir son employeur après le procès, quand une décision sera rendue, sur la base du dossier pénal dans lequel qui contient nécessairement en fait des éléments suffisants, encore une fois, à ce qu'une procédure disciplinaire soit diligentée à l'encontre de cet homme.
Leïla Hamzaoui, ce qui frappe, effectivement, c'est ça, c'est que je vais faire une comparaison. Lorsque un homme frappe sa femme, on extrait quelqu'un du foyer, on fait en sorte que ces deux-là ne se rencontrent pas. Là, dans le cadre de harcèlement sexuel au travail, et y compris quand on est dans l'état traumatique dans lequel est Anis, ces deux-là peuvent encore se croiser.
Alors, oui, c'est vrai, ils peuvent encore se croiser, avec une petite particularité dans le dossier d'Anis, c'est qu'on est dans une entreprise publique où les règles ne sont pas les mêmes. Un employeur de droit privé, il aurait des obligations plus lourdes parce qu'il a une responsabilité plus lourde, y compris conjointe pénalement, s'il n'a rien fait pour faire cesser.
Attendez, vous êtes en train de nous expliquer qu'on peut, pardon, je vais le dire comme ça, harceler plus facilement dans le service public que dans le privé.
C'est pas ce que je dis, parce que l'arsenal juridique est intéressant.
Aussi dans le public.
Oui, c'est pas du tout les mêmes outils qui sont utilisés. Mais le point, c'est que là, aujourd'hui, on a quelque chose qui est plus compliqué à activer au niveau de la relation de travail que dans le secteur privé. En revanche, il y a une prise en charge qui est meilleure, je pense, sur l'aspect procédure pénale que dans le secteur privé. Donc on est dans un environnement... En fait, la différence, c'est que la procédure pénale n'est pas très enveloppante. Elle accompagne pas beaucoup. Alors que la procédure, c'est vrai, dans la relation de travail, quand elle est bien suivie, quand les acteurs peuvent intervenir, elle accompagne plus.
Voilà. Marilyn Baldeck, vous vouliez ajouter quelque chose avant qu'on reprenne une auditrice, allez-y.
Oui, je voudrais m'adresser aux auditrices qui travaillent justement, qui sont fonctionnaires de l'État ou d'une collectivité territoriale, qui sont agentes publiques, pour leur rappeler qu'elles ont une protection particulière qui s'appelle la protection fonctionnelle et qui leur offre des droits que les salariés du privé n'ont pas. Donc notamment la prise en charge des frais d'avocat au pénal, et cette femme doit y avoir droit. Si son administration le lui refuse, elle peut attaquer ce refus devant un tribunal administratif, et on le lui conseille fortement. Mais son administration était également tenue de la protéger et de l'indemniser de ses préjudices.
Pardonnez-moi, mais je tombe de ma chaise de voir qu'il y a autant de différences finalement entre public et privé. Leïla Hamzaoui, est-ce que l'idée que les droits soient non seulement les mêmes, mais les facilités soient les mêmes pour le privé comme pour le public, ça paraît tellement évident?
Alors oui, alors sauf que c'est pas du tout le même mécanisme, mais c'est vrai que je rejoins ce que dit Marilyn, c'est-à-dire que les systèmes sont un peu différents, mais il y a des protections. Simplement, l'arsenal, par exemple, dans le privé, ça va être plutôt les acteurs qui sont les représentants du personnel, alors que là, on va avoir accès, et c'est, je pense, je partage aussi l'avis de Marilyn qui on en a discuté, aussi l'accès au conseil, l'accès à une protection où on peut se faire financer un accompagnement par un avocat, c'est aussi quelque chose qui permet aux victimes, dans le public finalement, d'être mieux accompagnées. Simplement, elles ne sont pas informées de leurs droits. C'est aussi beaucoup un problème d'information.
Et l'information, c'est ce qu'on essaye de faire ce soir. Claire, bonsoir, soyez la bienvenue sur France Inter, on vous écoute.
Bonsoir, oui, je souhaitais également témoigner parce que, par rapport au témoignage précédent de cette dame au ministère de la Défense, dans d'autres administrations, notamment des administrations centrales, j'ai eu à connaître dans un cadre syndical des situations similaires et je souhaitais insister sur le rôle de responsabilité extrêmement grave de la hiérarchie et du ministère de la fonction publique qui en effet fait barrage pour entendre les personnes qui sont placées dans ces situations. Et notamment j'ai eu à connaître moi deux situations extrêmement graves, de chefs de service qui contraignaient leurs collaboratrices à des relations sexuelles, en les menaçant de briser leur carrière, ainsi que un haut responsable financier dans un ministère qui avait placé sous contrôle tout son service pendant 2 ans. Et on a appris plus tard, après qu'il ait quitté cette administration, qu'il avait déjà été déplacé pour des faits similaires dans un autre ministère. Alors quand je me suis inquiétée de ces situations, on m'a dit d'une part qu'il n'était pas d'usage de mettre en cause des hauts fonctionnaires dans un cadre disciplinaire, ce qui n'est pas du tout écrit dans le statut, donc on ne comprend pas pourquoi. La preuve en est qu'à la faveur d'un changement de direction, j'ai pu témoigner de ces situations auprès du nouveau directeur qui avait demandé à me rencontrer et qu'il a traité et réglé la situation en moins d'une semaine.
Claire, juste une question, une curiosité, c'était il y a très peu de temps ce que vous nous racontez. Est-ce que ça commence à dater un peu ?
Il y a déjà ça date un peu, mais j'ai eu à connaître des faits similaires dans une administration territoriale près de chez moi, et donc c'est très récent, et ça a duré aussi assez longtemps, et tout le monde a fait semblant d'être surpris. C'est tout à fait difficile à interpréter de cette façon. On abandonne en effet les personnes dans des situations qui ne peuvent pas être méconnues. Les deux femmes que j'ai vues, moi, qui étaient des cadres supérieurs de la fonction publique, ont été harcelées journellement. Quand on détruit systématiquement vos dossiers en disant que vous êtes nulles, tous les moyens de brimade quotidien font que vous sanglotez du matin au soir dans votre bureau, on ne peut pas dire que la situation n'est pas visible.
Merci beaucoup Claire pour ce témoignage. Marine Baldex, ce que j'entends dans le témoignage de Claire, c'est barrage. Il y a des administrations, il y a des hiérarchies qui font barrage. Cette histoire qu'elle nous raconte a un certain nombre d'années, c'est ce que dit Claire elle-même, mais quand même, on n'est pas si loin non plus. Est-ce qu'on progresse ? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations, y compris dans la hiérarchie, pour qu'on avance ? Ou est-ce que ce mot barrage, vous l'entendez aussi très souvent ?
En fait, si les victimes de violences sexuelles au travail n'étaient pas confrontées à tout un tas de barrages, on aurait mis la clé sous la porte à l'association et ça aurait été très bien. Il se trouve que si elles nous saisissent, c'est justement parce que il y a tout un tas d'obstacles qu'il faut lever, notamment la prise en compte par les employeurs, qu'ils soient publics ou qu'ils soient privés, de cette question-là. Donc ces employeurs-là, publics comme privés, ils ont des obligations en matière de harcèlement sexuel. Ils ont une obligation de prévention, qui est une obligation de prévention primaire, c'est-à-dire qu'ils doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que cela ne se produise pas, même s'ils ne suspectent aucun cas dans l'entreprise ou l'administration. Ils ont une obligation de réaction et d'enquête immédiate, dit la Cour de cassation, quand ils sont saisis de ce type d'agissement. Ils ont une obligation de sanction du harceleur, qui est prévue par le Code du travail, et une obligation de protection. Et ils ont aussi l'interdiction de sanctionner les victimes. Et c'est vrai aussi bien pour les fonctionnaires que pour les salariés du privé.
Est-ce qu'ils ont obligation de déplacer à minima les harceleurs en attendant que la justice fasse son travail ou pas, Leïla Hamzaoui ?
Alors moi, je dirais que oui. Alors après, qu'ils le fassent, je ne sais pas. Mais je dirais que oui, parce qu'ils ont une obligation. À partir du moment où il y a une dénonciation, la réalité juridique de la situation, c'est qu'à partir du moment où quelque chose s'est produit, et même sur la seule base du ressenti de la personne, à partir du moment où quelque chose s'est produit, l'employeur engage sa responsabilité. Il a une obligation de résultat, c'est-à-dire qu'il doit faire que ça n'arrive pas. Et à partir du moment où quelque chose est arrivé, il a une obligation de résultat. Donc normalement, ce qui lui est imposé, c'est immédiatement de diligenter une enquête. Et pendant l'enquête, il doit prendre des mesures pour éviter que ça se reproduise. Parce que si informé de la situation, il ne permet pas de créer un cadre pour éviter que ça se reproduise en attendant de savoir ce qui s'est passé, alors il aggrave sa responsabilité.
Mais est-ce que ça veut dire que si ça va plus loin, si on arrive dans des cas qui peuvent aller jusqu'à la dépression et plus de la part des femmes qui sont victimes, est-ce que ça veut dire que l'employeur peut être tenu pour responsable ou moins co-responsable ?
Ah non, c'est certain, il sera... Et il le saura d'autant plus qu'il n'aura pas pris les mesures de prévention, d'autant plus qu'il n'aura pas réagi aux annonces. Il le saura lourdement au plan civil et il le saura au plan pénal.
Avant d'écouter Salomé, Marine Baldec, il y a autre chose qui m'a frappée dans le témoignage. Dans ce que vous venez de dire, en fait, Leïla Hamzaoui, c'est tout ça marche sur la base du ressenti. Ça veut dire que le point de départ, c'est bien le ressenti de la personne qui a été harcelée. C'est important que les gens qui nous écoutent le sachent.
Alors, le ressenti des victimes, c'est essentiel parce qu'à partir du moment où elles ressentent qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne, il faut qu'elles se fassent confiance. Ça veut dire qu'il y a un problème. Nos systèmes d'alerte ne se mettent pas en éveil pour rien. Je suis pas tout à fait d'accord pour dire que le seul ressenti des victimes suffit. Il ne suffit évidemment pas en matière juridique,
c'est
en matière
là que ça
contentieuse.
Commence.
C'est là que ça commence. Après, Là où je suis d'accord, c'est qu'en fait, le simple fait pour une salariée de se plaindre de harcèlement sexuel déclenche théoriquement, hein, tout un processus protecteur à son égard, puisque c'est la liberté d'expression en fait des victimes de harcèlement sexuel qui est protégée. L'employeur, par exemple, ne pourra pas, il ne peut pas la sanctionner, y compris si elle n'arrive pas à démontrer les agissements dont elle se plaint. S'il veut la sanctionner, lui, il faudra qu'il prouve qu'elle mente, qu'elle ment.
Et qu'elle savait. Et qu'elle savait qu'elle le faisait de mauvaise foi. Mmh. Sur le ressenti, la réalité, c'est que ça va jouer sur la qualification. Vous allez avoir une enquête qui va être menée. Le ressenti, en fait, la victime, elle ne sait pas forcément qualifier ce qui s'est passé. Parce que le harcèlement sexuel, ça suppose un certain nombre de conditions techniques qui ne sont pas forcément reconnues. Quand je parle de ressenti, je dis, s'il est arrivé quelque chose, même si derrière, il n'y a pas de qualification de harcèlement sexuel, le ressenti, de toute façon, par exemple, le fait de s'être senti attaqué dans une situation de travail et de l'avoir mal vécu parce qu'on fait un épisode dépressif ou parce qu'on se sent mal, c'est un accident de travail, par exemple. Même si la réalité des faits n'est pas forcément celle que vous avez ressentie. Donc, il y a une question de qualification, bien sûr, on ne va pas toujours aller. Mais c'est là où je dis que le ressenti, si, il est essentiel.
Est-ce qu'il y a un cadre très précis ? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire, voilà, le harcèlement, ça commence là, et on appelle ça harcèlement parce qu'il y a eu répétition à telle et telle fréquence, etc. Est-ce qu'il y a quelque chose d'aussi précis que ça ?
Oui, bien sûr.
Donc, Marine Baldeck.
Le harcèlement sexuel est défini à la fois par le code pénal, par le code du travail et par une loi de 83 portant droits et obligations des fonctionnaires pour les agents de la fonction publique. Il est défini comme des propos et des comportements à connotation sexuelle répétée, qui soit porte atteinte à la dignité des salariés en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, ou qui crée à l'encontre de la personne qui se plaint une situation intimidante, hostile ou offensante. Donc il y a cette définition.
C'est là qu'elle ressentit dans ce que vous venez de dire, dans la dernière remarque que vous avez faite, effectivement, la situation offensante pour la personne en face.
Il faut quand même l'objectiver. C'est-à-dire que si elle est soumise à des juges, il faudra objectiver le caractère offensant ou humiliant. Donc pour résumer, hein, ça va être des propos, des attitudes verbales, non verbales, qui sont connotées sexuellement, donc pas forcément explicitement, mais connotées sexuellement. Répéter, alors la Cour de cassation vient de dire qu'en matière sociale, un acte unique de harcèlement sexuel est suffisant pour le caractériser. Et il faut qu'il y ait des conséquences sur le travail.
Salomé nous appelle au 01 45 24 7000. Salomé, bonsoir, soyez la bienvenue sur Inter, on vous écoute.
Bonsoir, moi c'est pas une histoire d'hier, puisque maintenant je suis proche de la retraite et je travaillais déjà dans les années 80. Et comme j'expliquais à votre standard, j'ai subi à plusieurs reprises hein, de harcèlement dans mon travail, avec après une mise au placard des collègues. Moi, je travaillais dans le milieu hospitalier, donc le chef de service était à plusieurs reprises rentré dans le bureau, me insister lourdement pour m'inviter à dîner. J'ai refusé, j'ai résisté. Mais c'est vrai que maintenant, quand on parle de tout ça, je me dis que des tas de femmes ont dû être harcelées. Donc ça, moi, j'ai résisté. Moi, j'ai dit, mais monsieur, ça ne m'intéresse pas. Du coup, j'ai pas eu une bonne évaluation. Mon CDD n'a pas été renouvelé. Ça a été la double peine. Et quand vous avez 20, 20 ans, 22 ans, ça pose question. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement violent. J'étais quelqu'un de pas fragile. Je me suis dit, mais c'est qui ce salopard, hein, entre guillemets ? Qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Moi, j'avais envie de je débutais dans un métier, j'avais un avenir, je voulais travailler, faire ma place dans cette société. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ces méthodes ? Ce type, il a un pouvoir sur moi. J'ai trouvé ça écœurant. Du coup, je me suis impliquée dans des associations féministes. Hein. Je me suis impliquée dans tout ce qui était la défense de l'avortement, de la loi Veil, toujours pour des causes féministes. Mais je me suis dit, mais combien de femmes ont dû subir ça ? Et si on est un peu fragile, moi, j'étais pas fragile, puisque voilà, j'avais quand même quelques armes sûrement avec moi. Mais le ressenti, c'était terrible, parce que à partir du moment où j'ai osé dire non, j'ai senti des regards, des mises à l'écart, même de mes propres collègues qui étaient en dessous de ce type qui avait un pouvoir. Bon, c'était ce qu'on appelait à l'époque des mandarins, des chefs de service qui avaient beaucoup de
pouvoir. On l'appelle encore ça, des mandarins. Hein, ouais. Salomé, merci beaucoup pour votre témoignage. Et même si, comme vous le dites, effectivement, il date un peu, ce sont les termes que vous avez employés, mais c'est intéressant, Marine Baldeck, vous qui êtes déléguée générale de la VFT, est-ce qu'on progresse quand même ? Est-ce que ce que nous raconte Salomé, avec un peu de chance, on l'entend moins aujourd'hui?
Alors, incontestablement, on progresse. Donc, on progresse peut-être pas assez vite et surtout pas dans le secteur d'où elle vient, c'est-à-dire le milieu hospitalier.
Alors, j'allais vous poser la question parce que je vous ai vu réagir exactement de la même manière, l'une comme l'autre.
En fait, ce qui m'interpelle, c'est le troisième témoignage de femmes qui ont travaillé ou qui travaillent dans la fonction publique. C'est à peu près 20 à 25% des dossiers qu'on ouvre à l'association. Donc, quand même, le secteur privé est quand même majoritairement représenté. Dans les dossiers qu'on ouvre à l'association, il y a une surreprésentation de victimes qui sont issues du milieu médical et qui mettent en cause des professionnels de santé. Là, on voit vraiment qu'il y a un terreau favorable dans ce milieu-là.
C'est terrible parce qu'il y a un rapport hiérarchique presque immédiat des médecins, des infirmières, des aides-soignantes.
C'est ça. Et puis des hôpitaux qui protègent très fortement les médecins quand ils sont mis en cause pour des violences sexuelles, notamment quand ils sont sur des disciplines médicales qui sont rares ou très pointues et pour lesquelles l'hôpital estime qu'ils sont indispensables.
Aurélie nous appelle au 01 45 24 7000. Aurélie, bonsoir, on vous écoute.
Bonsoir. Alors moi, j'interviens aussi notamment sur cette question du rapport au pouvoir et aux personnes qui sont dessous. Là, en l'occurrence, il s'agit de... je travaille dans une collectivité publique, une ville de 15 000 habitants, l'adjoint en charge du personnel a agressé sexuellement plusieurs personnes. Et donc deux femmes ont déposé plainte pour agression sexuelle. En sachant qu'il y avait une dizaine de personnes concernées et dont une pour viol, mais il y avait prescription. Ces deux femmes, une des deux était en CDD, a fini par être limogée, et l'autre est restée pendant un an et demi avec son agresseur au quotidien, qu'elle voyait au quotidien. Le maire soutenait cet adjoint en charge du personnel. Donc cet adjoint finalement était dans un positionnement où il, par rapport à ses victimes, en fait, elles étaient en général en demande de quelque chose. L'une d'entre elles était en CDD, demandait un CDI. L'autre demandait un emploi pour sa fille. Donc systématiquement, c'était ce type de situation. Mmh. Et finalement, en définitive, donc il a été condamné pour un an et demi de prison avec sursis. Et on peut dire que c'est très peu, quoi. C'est que du sursis et finalement. Est-ce que ça peut vraiment faire peur à ce type de personnes qui enchaînent les agressions année après année et qui sont restées très, très longtemps au pouvoir dans ces conditions-là?
Aurélie, merci beaucoup pour votre témoignage sur France Inter. Je vois encore collectivité publique, Leïla Hamzaoui, c'est fou quand même.
C'est fou, mais je pense que peut-être qu'il y a une question de parole, parce que je pense que les chiffres de Marilyn sont bons, c'est-à-dire qu'il y a quand même dans le privé des situations. Après, est-ce que c'est plus facile? Moi, j'avais pas le sentiment de ça, mais est-ce que c'est plus facile de parler quand on est dans une collectivité publique? Peut-être. Mais ce qu'on entend dans le témoignage, là, c'est aussi, et c'est peut-être un point, c'est que la réponse pénale, elle n'est pas toujours bien
J'allais
ressentie.
Vous poser la question. Un an et demi avec sursis. Évidemment, quand on est la victime, on considère que c'est pas assez. Est-ce que, en général, c'est le sursis et la peine... basique et
après va y avoir
ça dépend évidemment des cas, mais enfin pour un cas comme celui-là par exemple, ça vous paraît normal, on va dire, dans la norme?
On n'a pas
dire.
Les éléments du dossier, on peut vraiment pas savoir. Après, ça va dépendre vraiment des juridictions. On a localement des particularités qui sont très fortes, et c'est vrai que moi, c'est l'alerte que j'ai sur la réponse pénale. C'est-à-dire qu'on est très seul, on est dans un environnement très dur, où la victime est très mise en avant et très exposée, avec une réponse qui est difficile à comprendre.
Marlène Baldec, vous vouliez intervenir?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on a un prévenu qui est condamné par un tribunal correctionnel et qui est un primo délinquant, même si on sait que c'est un multi-réitérant, et que par ailleurs, c'est un homme blanc, bien inséré, etc., donc je ne sais pas quelles étaient les particularités de ce dossier, il y a quasiment aucune chance qu'il écope de prison ferme. La prison ferme, c'est vraiment la peine qui est prévue en matière de récidive ou quand vraiment il y a des circonstances extrêmement particulières. Et c'est évident que pour les victimes, ça n'est pas compréhensible. Je voudrais aussi rebondir sur pourquoi on a ici plus de témoignages de femmes
du public que du privé.
Du privé. Il y a une différence de conséquences qui est évidente entre les salariés du privé et les salariés du public, c'est que les fonctionnaires, quand elles parlent, elles ne perdent pas leur travail. en fait. Elles ne perdent pas leur emploi, elles perdent leur poste. C'est la plupart du temps, parce qu'elles vont être déplacées. En dépit du fait que c'est une mesure discriminatoire et illégale et que l'employeur public devrait s'interdire, mais néanmoins, elles ne se retrouvent pas sans rien. Alors que les salariés du privé, quand elles dénoncent et que leur employeur ne fait pas ce qu'il faut, voire qu'elles sont licenciées pour avoir dénoncé, elles sont licenciées, elles perdent leur travail dans une situation, dans un environnement où c'est très difficile pour elles d'en retrouver en ce moment.
Est-ce que vous poussez les femmes à porter plainte, en fait, à aller jusqu'au pénal, à aller jusque-là, ou est-ce que le premier pas doit être vers les prud'hommes, par exemple? Comment ça se passe? Qu'est-ce que vous leur dites, Marlène Baldacker?
Nous, on ne pousse personne, en fait. On les informe de leurs droits. La plupart des victimes ont envie de porter plainte au pénal. Donc nous, on les accompagne dans l'accès à ce droit-là, qui est un droit fondamental quand même, de porter plainte, parce que ce sont des agissements qui troublent l'ordre public et les parquets doivent faire des efforts considérables pour renvoyer davantage les harceleurs sexuels devant les tribunaux correctionnels. Mais on les guide aussi très certainement vers les juridictions du travail, donc le tribunal administratif pour les fonctionnaires, le conseil de prud'homme pour les salariés du privé, parce que devant ces juridictions-là, elles ont des avantages certains, notamment en termes d'aménagement de la charge de la preuve. C'est plus facile d'établir le harcèlement sexuel en droit du travail, public ou privé. C'est aussi une procédure qui a une visée indemnitaire, et ça, on l'oublie souvent. C'est important que ces femmes-là, elles soient indemnisées de leurs préjudices.
C'est pour ça que je vous posais la question d'aller directement vers les prud'hommes avant de passer par la case, ou en même temps,
en fait,
de passer par une autre case.
Ça n'est pas soit l'un, soit l'autre. La plupart du temps, les deux procédures sont menées parallèlement. Et par ailleurs, il y a aussi des victimes qui choisissent de ne pas aller sur la voie pénale, et c'est aussi un choix qui est respectable. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup cette petite musique en ce moment qui consiste à dire que les victimes, elles doivent porter plainte. Par ailleurs, certains employeurs font reposer la crédibilité de leurs salariés sur le fait qu'elles aient porté plainte au pénal, alors que ça n'a rien à voir. C'est leur liberté de choix procédural.
On disait tout à l'heure qu'on avait beaucoup trop de gens qui étaient du public dans les appels. Eh bien, on va appeler Jean, enfin, on va répondre à Jean. Bonsoir, Jean.
Bonsoir,
vous avez été employeur
dames.
Dans le privé, vous, et racontez-nous votre histoire.
Alors, voilà, moi, j'étais co-gérant. Nous étions deux gérants dans cette société. On avait une quinzaine de salariés. C'est une entreprise de travaux. Et au sein du bureau, depuis des années, nous avions cette assistante de direction qui a été qui a fait l'objet de harcèlement sexuel. Et en fait, elle a mis beaucoup de temps, je ne sais pas exactement le temps qu'elle a mis, mais elle a mis du temps pour me le dire, pour nous le dire. Et c'est l'autre conducteur de travaux qui m'a prévenu. Et donc j'ai été la voir, je lui ai dit « Écoute, qu'est-ce qui se passe ?» parce que je la connais bien, et j'ai senti qu'elle avait peur, en fait. Elle avait peur de dire les choses. Et on a fait ça en collaboration avec l'avocate, c'est-à-dire j'ai appelé l'avocat et j'ai demandé la procédure à suivre. Et là, j'ai appris qu'un employeur privé est censé faire une enquête, au même titre qu'une enquête de police, exactement la même chose. Et c'est ce que j'ai fait, donc j'ai reconstitué les faits avec elle, réellement, comme si on fait une reconstitution de crime, on est sorti dehors, qu'est-ce qui s'est passé devant la voiture, quels sont les propos de toute nature douteuse et salace qu'on lui a proférés. Et ensuite, avec l'avocate, on a décidé de le convoquer, je l'ai convoqué, et il y a eu une mise à pied de 8 jours. Alors c'est quand même pas simple, parce que lui s'est mis à pleurer comme une madeleine, donc il comprenait pas tout ce qui lui arrivait, mais visiblement il le comprenait pas. Il a été mis à pied pendant 8 jours. J'ai pris cette précaution.
On a tous eu la même réaction autour de la table. 8 jours de mise à pied, c'est pas lourd.
Alors c'est pas fini. Et sachez que on a mis du temps à mettre ce cadre social dans cette petite entreprise, et on l'a fait avec l'avocate qui en plus était une femme qui au début m'a dit on le licencie sur le champ. Et il y avait une procédure à suite, et de toute façon, ça a été. Alors c'est pas lourd, c'est vrai, c'est pas lourd. Il était interdit de remonter au bureau parce qu'il y a une espèce de proximité entre le.
Vous êtes combien dans votre entreprise?
On était 15 ou 16 à l'époque. C'était il y a 3 ans, quoi.
Okay.
Et voilà. Bon, il avait interdiction de remonter au bureau. Il peut pas. Les salariés montent et descendent le soir et le matin souvent pour plein de raisons. Et en fait, il avait interdit de monter au bureau, et après il est parti. C'est pas lourd, mais je dois dire que j'étais pas à l'aise avec ça. J'avais pas j'ai eu aucun doute de ce que m'a dit mon assistante parce que je la connaissais et j'ai senti la peur surtout et la peur de parler et elle avait peur de foutre un petit peu le merdier au sein de l'entreprise parce que ce mec-là avait un poste qui tenait la route et il travaillait bien. Voilà.
Merci de votre témoignage, Jean, parce que c'est intéressant ce que vous nous avez raconté sur à la fois les étapes qui ont été les vôtres et puis comment c'est compliqué effectivement pour chacun de comprendre exactement ce qu'il doit faire. D'une certaine façon, Leïla Mzaoui, quand on est dans une entreprise comme ça, là, 15 salariés seulement, on va forcément se recroiser. C'est effectivement extrêmement difficile, mais je vous ai vu réagir aux 8 jours de mise à pied quand même.
Je partage l'avis de ma consoeur hein, sur le fait que si en plus il y a pas de doute sur la parole. Alors après il faut quand même comprendre que ce qu'a fait Jean est quand même une démarche assez inhabituelle. On est aujourd'hui le monde du travail, c'est le reflet de la société. Hein. On peut pas attendre de l'entreprise privée ou publique qu'elle aille plus loin que la société. Et aujourd'hui on sait ce que c'est la parole des femmes sur ce qui s'est passé. Donc ce qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que la parole de la femme, elle n'a pas été remise en cause. Donc c'est vrai que la sanction, moi, textuellement, juridiquement, ça justifie un licenciement. Maintenant, ils ont pris leur décision en fonction d'un certain nombre de paramètres qu'on n'a pas forcément. Et surtout, ce qui est intéressant dans la démarche, c'est qu'ils ont écouté
et cru,
et pas mis en doute.
Jean,
parce que c'est pire, en fait. Ouais. C'est
pire. Jean, je sais que vous voulez réagir et répondre. Allez-y, je vous en prie.
Oui, il y a eu aucun doute, effectivement, quand elle m'a parlé, je me suis dit, bah, putain, voilà. Et on a surtout suivi la procédure que nous a conseillé l'avocat. Et c'est ça. On dit, voilà, on procède comme ça. Je l'ai reçu, voilà, il y a eu une mise à pied, c'était la seule manière de pouvoir faire les choses. C'était, parce que au début, elle m'avait dit, on le licencie sur le champ. Je dis, bah, d'accord, allons-y, ça va pas être simple, mais, comment on fait? Et c'est elle qui est revenue, qui m'a dit, bah, écoutez, non, il y a quand même des règles, il y a une procédure, on pourra le faire comme ça. Là-dedans, j'étais guidée par un avocat, qui était notre avocat.
Pardon Jean, excusez-moi de vous avoir interrompu. Il y a autre chose moi que j'entends dans votre témoignage, Marlène Baldec, vous allez peut-être pouvoir répondre. Ce harceleur là qui se retrouve arrêté se met à pleurer. Il dit je ne comprends pas. Et ça, on a l'impression que c'est encore pire que dans toute forme d'agression en fait. Le déni sur une agression, ça a l'air d'être une commune mesure en fait lorsqu'on a des cas comme celui-là.
En fait, moi, je crois pas qu'ils ne comprennent pas, en fait. Je pense que c'est une technique de défense de sa part. Quand on regarde, en fait, les agissements que les femmes révèlent au titre du harcèlement sexuel, c'est tout de suite extrêmement grave, quand même. C'est des propos qui sont tout de suite extrêmement humiliants, qui sont offensants, qui les réduisent à des objets sexuels. Je ne crois pas qu'en 2017, un homme normalement constitué puisse se dire que son comportement, un comportement de la sorte est acceptable. Après, moi, je voudrais réagir aussi sur ce qui s'est passé dans cette entreprise. Je trouve que le témoignage de cet employeur, il est vraiment réjouissant parce que il a eu le bon réflexe. Il a appelé son avocate, qui lui a dit ce qu'il fallait faire. Il a mené une enquête, qui a conclu à l'existence du harcèlement sexuel. Jusque là, tout va bien. Les 8 jours de mise à pied, je crois que quand même, il faut dire que ce n'est pas en adéquation avec la gravité de ce type d'agissement. En plus, juridiquement, il pouvait le licencier puisque la Cour de cassation dit que le harcèlement sexuel, c'est nécessairement une faute grave. Et donc, si cet employé s'était retourné contre lui pour contester son licenciement, il n'aurait pas eu gain de cause. Donc, c'est dommage, c'est d'autant plus dommage que même s'il réorganise le travail pour que l'un et l'autre ne se croisent pas, en fait, dans une entreprise de 15 personnes,
il y a une forme de protection quand même.
Ça n'est pas possible dans une entreprise de 15 personnes de ne pas se croiser. Et c'est comme insécurisant pour la victime. Et donc, il ne respecte pas son obligation de sécurité à son égard.
Et il protège un peu. Mais Jean, on a entendu quand même que vous aviez eu une attitude exemplaire. On ne veut pas que vous sortiez du téléphone sonne en vous disant que décidément, vous avez tout fait de travers.
La prochaine
parce
fois,
que...
il fera parfaitement.
Voilà, mais vous avez fait les choses correctement. Il nous reste à peine 2 minutes 30. Catherine, si vous arrivez à être extrêmement courte, ce serait parfait. Bonsoir, en tout cas, soyez la bienvenue sur Inter.
Oui, bonsoir. Je fais vite. Voilà, je suis étonnée d'entendre que quand la personne qui a été maltraitée et harcelée par son supérieur hiérarchique revient dans l'entreprise, elle est obligée de changer de service et pas le maltraitant.
Alors, c'est une bonne question, Catherine. Est-ce que c'est toujours le cas, Leïla Hamzaoui ? Est-ce que c'est souvent l'harcelé qui doit changer de service plus que le harceleur ?
Bah non, théoriquement, ça ne devrait pas être le cas, parce que tout l'arsenal juridique, au public comme au privé, c'est de dire qu'on ne doit subir aucune discrimination, aucune conséquence du fait, alors, bien sûr d'avoir été harcelé, mais même d'avoir dénoncé des faits de harcèlement, et même lorsque on s'est trompé quand on a dénoncé. Donc bien sûr que non, mais c'est une réalité économique, dans le cas de Jean tout à l'heure, il était performance, il était bon, c'est une réalité hiérarchique, c'est une réalité fonctionnelle, c'est le reflet de la société, donc la normalité ce serait que la personne qui a harcelé soit mise de côté.
Mais plus que la normalité, pardonnez-moi Leïla Hamzaoui, mais dans l'arsenal des sanctions, même quelque chose qui dit, même s'il est excellent dans son travail, ce monsieur, puisqu'il est harceleur, qu'il aille, lui, dans un autre service.
Oui, mais alors, bien sûr que c'est ce que vous dit, c'est ce qu'on vous a dit toutes les deux. Ce qu'on vous dit, c'est que c'est une faute grave, que la personne doit partir, alors avec des choses différentes, en fonction du public et du privé, mais c'est la réalité opérationnelle de l'entreprise qui fait que, dans l'arbitrage qui est fait, on va pas faire prévaloir la gravité de ces faits-là. On va mettre la performance à un niveau plus élevé, par exemple, ou le degré hiérarchique à un niveau plus élevé que ce qui s'est passé.
Marlène Baldeck, juste pour le mot de la fin, il nous reste très peu de temps.
Oui, tant que les employeurs choisiront celui qui est le plus rentable sur celle qui a été victime de harcèlement sexuel, on n'en sortira pas. Il faut qu'ils considèrent que ces agissements, non, ne doivent pas avoir lieu dans leurs entreprises et qui respectent leurs obligations et notamment qui montrent aussi un modèle, c'est-à-dire que s'ils conservent au sein des entreprises les harceleurs sexuels, il n'y a pas de raison que ça s'arrête.
Et j'ai vu beaucoup d'entreprises prendre ça très au sérieux quand même.
Eh bien écoutez, ça au moins c'est un mot de la fin optimiste. Merci beaucoup, merci à toutes les deux et merci à tous qui nous ont livré vos témoignages sur Inter ce soir.